Radio-là, radio locale d'intérêt général.
Aidant, faites-vous aider, c'est un peu le message de l'émission du jour. Environ 10 millions de Françaises et Français sont concernés, selon les chiffres du ministère de la Santé. Une personne sur six ou presque qui vient en aide au quotidien à un parent, à un enfant, un conjoint ou un proche en perte d'autonomie. Une attention de tous les jours gourmande en temps et en énergie, une charge mentale importante, parfois source d'épuisement et d'isolement. Heureusement, des solutions existent pour aider ces personnes aidantes, et notamment Androm Provençal et Adiolfi. Nous recevons deux invités aujourd'hui qui vont nous parler de ces solutions, notamment à travers une plateforme de répit qui est basée à Nyons, mais qui rayonne dans toute la Drôme provençale, qui s'appelle Escapade. Valérie Blache, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, vous animez notamment des groupes de parole pour les aidants en Drôme provençal, mais pas seulement. Vous allez nous expliquer ce que vous faites exactement. Charlotte Ottaviani, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes coordinatrice de cette plateforme d'aide aux aidants. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors peut-être pour commencer, j'en ai parlé un petit peu en introduction, mais est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est une personne aidante ?
Alors, en fait, un proche aidant est souvent une personne proche de la personne aidée qui est en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Souvent à proximité géographiquement, affectivement, et qui n'a pas vraiment de statut juridique pour l'instant, quoique maintenant c'est de plus en plus reconnu quand même, puisqu'il y a des aides pour les aidants. Mais c'est plutôt la reconnaissance d'un fait, en fait. Alors l'aide apportée peut être de nature très variée, souvent elle évolue avec le temps, d'une aide ponctuelle à une aide régulière, quotidienne, voire permanente. Les constats en général sont l'oubli de soi, l'isolement, la culpabilité de l'aidant, une charge mentale élevée, comme vous l'aviez dit, et souvent une rupture avec la vie sociale, puisque l'aidant ne sort plus, au final, il ne s'occupe que de l'aider. Donc voilà, la plateforme, elle est un peu là, un peu pour les repérer et prévenir l'épuisement de l'aidant et lui proposer des solutions de répit.
On va parler de ces solutions, peut-être toujours sur ce qu'est une personne aidante. Et en France notamment, j'ai donné le chiffre de 10 millions de personnes, mais... Au final, on est presque un petit peu toutes et tous concernés à un moment de sa vie par l'assistance d'une personne en perte d'autonomie, Valérie ?
En perte d'autonomie ou porteuse de handicap, bien sûr. D'autant plus que la France connaît une population de plus en plus vieillissante, avec une qualité de vie majoritairement très bonne, mais qui veut dire également qu'à un moment donné, se posera la question de l'autonomie, voire de la dépendance. Et le maintien à domicile jusqu'où, avec des proches dans la capacité de pouvoir accompagner le mieux possible sans se mettre en péril aux dépens de la qualité de vie du proche qui l'accompagne.
J'imagine que c'est très varié, mais quel est le profil de ces personnes aidantes ? Est-ce que vous savez s'il y a... Il y a autant de femmes que d'hommes. Quel est l'âge de ces personnes ? Ce sont souvent des personnes qui cumulent une activité professionnelle avec l'aide d'un proche ?
Ce sont majoritairement des femmes, épouses, enfants, voire mères, mais pas que. Les époux ont bien sûr les hommes ont bien sûr leur place et sont également de plus en plus présents dans cette aide, d'autant plus concernant les seniors, puisque nous sommes un département d'attractivité de seniors et que le réseau familial n'est pas toujours là. Ce qui amène le membre du couple qui accompagne homme ou femme d'être de plus en plus présent pour accompagner la perte d'autonomie, en sachant que les enfants actifs sont également très présents. C'est ce qu'on appelle généralement la génération sandwich qui accompagne un proche en perte d'autonomie, un parent voire un grand-parent, et qui en même temps accompagne également son jeune qui va faire des études et commence dans la vie active. Et l'aspect financier est également important dans l'accompagnement.
Donc, à la fois cumuler l'aide d'une... Enfin, sa vie quotidienne, son travail, sa vie de famille éventuellement, avec l'aide d'une personne aidante. Quel le point commun entre une personne qui s'occuperait par exemple de sa mère ou son père qui est âgé, ou de son conjoint ou de sa conjointe qui est atteint par une maladie neurodégénérative, ou d'un enfant handicapé, ça serait le temps et l'énergie qui est consacré à ce temps aidant.
Le temps et l'énergie, et la charge mentale aussi, hein, parce que le souci que l'on se fait pour son aidé, c'est pour ça que les aidants ne prennent pas de temps pour eux, puisque ils se sentent de fait indispensables auprès de leur aidé, ce qui est souvent vrai d'ailleurs.
C'est aussi un mécanisme qui est insidieux, c'est-à-dire que souvent dans la perte d'autonomie, ça commence par être un petit peu là pour accompagner, pour faire les courses, les papiers à remplir, surtout avec l'informatisation qui peut créer une rupture, hein, selon les générations. Et ce temps va être de plus en plus important parce que la personne va avoir besoin d'aide. Et c'est là où est le risque, c'est-à-dire ce que questionnent les participants au groupe de parole. C'est quoi être aidant finalement ? Parce que moi, c'est normal en tant qu'époux ou en tant qu'enfant d'aider mon proche. Oui, certes, ça fait partie de la solidarité intergénérationnelle, la solidarité de couple. Là-dedans, c'est plus de se poser la question, à quel moment est-ce que moi je me sens en tension par rapport à mes propres besoins ? Que le besoin de l'aidant ne se fasse pas régresser au dépens de celui de la personne qui est en perte d'autonomie ou porteuse de handicap. Et c'est là toute la difficulté, ouais, et toute la tension qui existe pour justement articuler une vie personnelle et l'aide qui est nécessaire pour son proche.
D'accord. Donc il y a un risque de ne pas se rendre compte qu'on est isolé ou épuisé par cette situation, et du coup ne pas demander d'aide. Vous avez parlé de culpabilité notamment, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement chez les personnes aidantes.
Culpabilité, une rupture professionnelle aussi, et puis le fait qu'ils ne prennent plus soin d'eux au niveau de leur santé aussi. Ils prennent même plus le temps d'aller aux rendez-vous médicaux, etc. Donc ça, c'est un risque quand même élevé. Il faut savoir qu'au niveau... Alors, je parle des aidants aidés en couple, hein, souvent époux-épouse. 40% des aidants partent avant l'idée. Donc, c'est de l'épuisement.
C'est le premier élément qui est mis en avant de façon régulière dans les groupes de parole. C'est vraiment le risque de létalité d'être aidant, de l'épuisement. Parce qu'effectivement, le processus est insidieux. Vous travaillez, vous sortez du travail, vous allez chercher les médicaments, remplir les papiers, vous allez organiser les services d'aide à domicile, vous allez être appelé par les services d'aide à domicile ou au travail, vous allez être réveillé par votre proche qui peut éventuellement vous solliciter pour une inquiétude qui arrive à un moment donné. Donc tout ça prend énormément de place et le mécanisme se met en place vraiment dans le temps. C'est vraiment ça la problématique, et prend de plus en plus de place, se dilate dans l'espace personnel de celui qui va être de plus en plus sollicité.
Le but justement de la plateforme, c'est justement de prévenir ça et d'arriver avant cet état d'épuisement avancé, parce que souvent on en arrive à l'hospitalisation parce que c'est trop tard, quoi. Voilà, le processus est trop engagé.
C'est vraiment la plateforme est là pour mettre en place le maximum de mécanismes de prévention à travers toutes les actions qu'elle peut mettre en place en direction de ce public-là.
Parlons-en justement de ces solutions qui sont proposées donc pour les personnes aidantes par la plateforme de répit Escapade. Alors, est-ce que on peut commencer par vous proposez tout un panel en fait de solutions pour ces personnes qui vont du groupe de parole collectif, enfin du sac de parole collectif.
Et ça, c'est une des solutions pour certains aidants qui ont envie, qui ont le besoin.
Ouais.
Alors la plateforme en fait a été créée en septembre 2023. Nous sommes composés de 4 personnes au niveau de l'équipe, une équipe pluriprofessionnelle composée d'une psychologue, d'une infirmière et d'une assistante de soins en gérontologie et moi-même. Donc nous avons tout le secteur, comme vous disiez, de la Drôme provençale, donc ça va de Saint-Paul à Marsanne, Montélimar, Dieulfi, Rémusat, Buy, Montbrun, Cédron. Et donc depuis janvier, nous avons ouvert des lieux ressources, qui sont des points d'accueil et d'information qui sont sans rendez-vous et qui sont là pour proposer des solutions, déjà une écoute attentive et bienveillante, et une évaluation personnalisée et un suivi ponctuel gratuit, voilà, pour les aidants. Donc en général, c'est une fois par mois dans chaque lieu. Vous avez une personne de l'équipe qui est présente sur le territoire. Et après, on peut également proposer, si l'aidant ne peut pas se déplacer dans ces lieux d'accueil, faire une visite à domicile et faire donc une évaluation à domicile des besoins des aidants et lui proposer des solutions de répit. Au niveau des solutions de répit, nous, on s'appuie beaucoup sur les partenaires, donc sociaux, médico-sociaux. Ça peut être les associations France Alzheimer, France Parkinson, APF Handicap, et enfin, il y a beaucoup d'associations quand même sur le territoire. Ensuite, on peut s'appuyer sur les établissements médico-sociaux comme les EHPAD, par exemple, pour les accueils de jour ou d'urgence, ou les accueils permanents ou temporaires. C'est une demande qui est assez importante sur le temporaire, pour avoir du répit. Après, ça peut être aussi du répit à domicile avec du baluchonnage ou du relayage.
Alors, c'est quoi ça ?
Alors, le relayage ou le baluchonnage, c'est en fait, on remplace les dents pendant 3 à 6 nuits ou quelques heures avec une auxiliaire de vie ou une aide à domicile qui vient remplacer les dents 24 heures sur 24. Donc là, ça permet à l'aidant de pouvoir partir en vacances, aller voir ses proches, voilà.
Se reposer.
Se reposer, en fait, c'est ça.
C'est vraiment le mot répit qui est dans le nom de la plateforme qui est parlant. D'accord. L'objectif, c'est à la fois de favoriser la qualité de vie de l'aidant et de maintenir le plus souvent à domicile la personne aidée.
Alors, des fois, on arrive à domicile, évidemment, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien de mis en place. Donc là, on aide pour l'aide pour l'autonomie, par exemple, le dossier à remplir. On les aide, hein, parce qu'on les accompagne. Nous, on a une porte d'entrée, finalement, au domicile. Donc, les aidants nous font confiance, donc on les accompagne là-dessus. Après, si vraiment ça devient un petit peu complexe, on les réoriente vers les partenaires. On peut aussi leur proposer un petit peu de temps libéré avec Sandrine, qui est l'assistante de soins à domicile, pour déclencher un petit peu l'envie ou le besoin d'aller à un groupe de parole. Voilà, donc de toute façon, on avance au niveau de la réflexion, au niveau de la plateforme. C'est tout récent, donc on réfléchit, on essaie de voir un peu les besoins vraiment sur le territoire.
Sur ce territoire, justement, donc tout est parti de Nyons. Aujourd'hui, il y a pas mal de communes dans lesquelles vous avez des antennes où il est possible d'être suivi, de suivre un sac de parole notamment, d'avoir un suivi psychologique. Est-ce que, dont Dieu le fit, est-ce que vous allez continuer à vous développer dans d'autres communes?
Alors oui, il va y avoir sûrement Rémusat à la rentrée. Le Tricastin, ça sera plutôt en 2024. Voilà. Mais après, là, on aura pratiquement maillé tout le territoire. Donc.
D'accord, de la Drôme provençale. Voilà. Pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient une personne aidante ou une personne aidée d'ailleurs, qui souhaiterait en parler à quelqu'un, comment est-ce que, vous parliez de toutes ces solutions que vous proposez, notamment d'un diagnostic, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir où on en est dans sa situation
Il suffit de nous contacter, de nous appeler au numéro de téléphone unique je vous le donne peut-être, le 04 75 26 94 33, et là vous serez rappelé assez rapidement, ou alors vous pouvez envoyer un mail à plateforme de répit @orsac-atrir.fr. Voilà. Et là vous êtes reçu, et soit on prend un rendez-vous, soit on prévoit de se voir à la plateforme ou dans les lieux ressources.
D'accord. Souvent, voilà. Quand une personne vous appelle, donc vous prenez le témoignage, vous analysez la situation de cette personne et vous soit c'est un rendez-vous,
On peut le faire par téléphone ou on peut le faire à domicile ou dans les lieux ressources.
D'accord.
Voilà, ça dépendra de la situation de l'aidant.
Le but, c'est de s'adapter au maximum aux besoins de la personne.
On fait on va vers les personnes.
Il y a cette possibilité, en tout cas, de vous déplacer. Vous êtes une plateforme mobile.
Oui, c'est ça.
Très bien. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant de continuer à parler de cette plateforme à destination des aidants. On écoute Parcells, Lighten Up.
Tonight. maintenant.
Nous sommes toujours avec Valérie Blache et Charlotte Ottaviani, respectivement psychologue et coordinatrice de la plateforme de répit Escapade en Drôme Provençal, qui permet à ces personnes aidantes de souffler, d'avoir un moment de répit, et puis tout un panel de solutions, en tout cas, qui sont proposées par cette plateforme. Peut-être, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, est-ce que s'il y a des conditions pour être accompagné par Escapade ?
Alors oui, effectivement, au niveau de l'âge, hein, il faut que l'aidé ait plus de 60 ans. Par contre, l'aidant peut avoir 15 ans, 20 ans, 30 ans, 80, bref, peu importe.
C'est la seule...
La seule condition, c'est que l'aidé soit, voilà, soit
un senior.
Soit un senior, voilà, c'est plutôt...
D'accord. Vous savez, la plateforme est toute récente, elle existe depuis à peine un an. Vous savez, combien de personnes est-ce que vous suivez actuellement en Drôme Provençal?
Alors là, c'est difficile à dire. Je dirais qu'on en est à peut-être une centaine, oui, à peu
même,
près depuis.
Même plus, oui, je pense. Parce
que les groupes de parole, ça fait beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, je parle vraiment au niveau de la plateforme. Après, au niveau groupe de parole, je ne sais pas.
Au niveau des groupes de parole, il y a 6 groupes de parole. On va commencer par le nord du département, de la Drôme provençale, Montélimar, Dieulefi, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Nyons, Rémusat, Buis-les-Baronnies, Sèderon. Et il y a environ une vingtaine de personnes qui s'inscrivent dans ces groupes, en sachant qu'ils ne viennent pas en systématique à chaque rencontre, puisqu'il y a des thématiques qui parlent plus à certains en fonction de leur situation. Et ensuite, effectivement, ces personnes peuvent également être accompagnées par la plateforme. Mmh. C'est tout l'intérêt justement de travailler en réseau, c'est de pouvoir orienter à travers les différents dispositifs en fonction de ce que nous dira l'aidant. Pour avoir de l'information et un diagnostic par la plateforme, par Charlotte ou ses collaboratrices, mais également travailler avec les autres partenaires qui jouent leur rôle, le département, la MSA et toutes les associations d'aide à domicile, les SIAD, les EHPAD. On est vraiment dans l'idée de créer un maillage qui réponde aux différents besoins, et c'est ce qui ressort dans les groupes de parole, c'est-à-dire qu'effectivement le maintien à domicile, oui, dans quelles conditions et jusqu'à quand, jusqu'où,
d'accord,
pour l'un et pour l'autre.
Si on est, pour rester sur ces groupes de parole, leur intérêt, j'imagine que les personnes aidantes, pour certaines ont besoin de soins ou de temps, vous le disiez. Certaines personnes ont peut-être besoin d'écoute ou de parler, tout simplement. J'imagine que ça leur fait du bien, ou d'obtenir des informations sur une maladie particulière qui les touche dans leur quotidien, mais avec lesquelles elles n'ont pas l'occasion de discuter avec d'autres personnes.
Tout à fait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le statut d'aidant, ou en tout cas le rôle d'aidant, amène à l'isolement. Vous êtes un petit peu dans un tunnel, hein, finalement, votre journée est rythmée par les besoins de l'aider. Et souvent, il y a un sentiment d'isolement qui est très présent, qui est réel aussi. Nous sommes en milieu rural, hein, Dieu le fit, et la petite bourgade qui diffuse sur le secteur, mais effectivement, nous sommes en milieu rural, avec des dispositifs qui existent et qui ont besoin d'être soutenus, et les aidants ont besoin d'avoir des espaces d'écoute de parole, de façon à avoir de l'information, à pouvoir partager leur expérience, se rassurer sur le fait qu'ils fassent bien, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est important quand vous avez quelqu'un qui oublie, qui répète un nombre de fois incalculable et qu'à un moment donné les dents, je vais péter un câble, de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation, par exemple. Mmh. Et que c'est vraiment l'espace qui va permettre d'être aussi souvent le premier pied à l'étrier pour accéder à d'autres choses, ou justement pour avoir connaissance de tout ce qui peut exister. Et c'est là l'intérêt après de travailler avec la plateforme, et hop, je renvoie le ballon à, c'est à Charlotte.
Quand je rencontre pour la première fois un aidant, en général, on passe bien une heure et demie à juste échanger. Parce qu'il a besoin de poser son sac et voilà, de décharger un petit peu. Et après, là, on entame le vrai travail. Mais c'est déjà souvent ça, hein, au début.
D'accord. Peut-être pour développer sur vos partenaires, enfin l'orientation vers les spécialistes du médico-social avec qui vous êtes en partenariat. Dans l'idée, ça peut être quoi ? Ça peut être permettre à quelqu'un de dégager du temps en faisant appel à une personne aide à domicile ou auxiliaire de vie, par exemple ?
En général, souvent, ce qu'on propose, c'est déjà, s'il n'y a pas d'aide à domicile, proposer de l'aide à domicile pour décharger sur les tâches quotidiennes, c'est-à-dire le ménage, le linge. Ça peut être les cours si il n'a plus de mobilité, par exemple, si c'est des personnes âgées, souvent ils ne conduisent plus ou ils sont trop fatigués, etc. Ça peut être aussi, après, mettre en place peut-être un passage infirmier pour le pilulier, parce que ça, c'est quand même tout ce qui est suivi de santé, d'avoir un suivi de santé quotidien. Ça, c'est en lien avec le médecin traitant. Après, qu'est-ce que ça peut être du répit, par exemple, quelques heures avec une halte relais, par exemple, France Alzheimer propose ça. Vous avez aussi des accueils de jour dans certains lieux qui permettent de prendre l'aidé en fait chez lui. On vient le chercher avec un taxi, puis on le ramène le soir. Du coup, l'aidant, il a quand même sa journée à peu près.
Ça peut être un jour par semaine.
Jours par semaine, ça dépend. Une matinée, voilà.
D'accord.
Les haltes relais, c'est souvent une après-midi ou une matinée. Voilà. Donc là, vous pouvez pareil amener votre aidé ou vous-même y aller si vous avez envie de changer les idées ou de rencontrer d'autres personnes, de recréer un lien social. Et ensuite, ça sera si, par exemple, il y a une hospitalisation, par exemple, l'aidant a besoin de se faire opérer, par exemple, pour une opération chirurgicale, trouver peut-être, alors, soit par le baluchonnage, donc c'est 6 nuits grand maximum, le baluchonnage, on ne peut pas faire plus, ou alors un accueil temporaire en EHPAD ou en structure pour l'aider pendant que l'aidant prend soin de lui.
Ça se traduit concrètement sur le secteur par les échirous qui proposent de l'accueil de jour, de l'accueil temporaire. Ça peut être aussi Dieu le fit santé qui, en fonction des troubles qui sont diagnostiqués, maladie de Parkinson, de l'appareil locomoteur, de proposer un séjour temporaire pour faire un point par rapport à la personne aidée, un point médical, et permettre à l'aidant sur ce temps-là de pouvoir lui se reposer, se réorganiser, faire ce qu'il veut pour le coup. Et ça fait partie des éléments qui sont vraiment présents sur le secteur.
D'accord.
Vous avez l'hôpital local aussi qui fait de l'accueil temporaire, de l'accueil de jour. Il ne faut surtout pas hésiter à se rapprocher de ces structures-là.
Au niveau du répit, vous avez Bulle d'air, hein, qui est financé par la MSA, qui intervient sur toute la Drôme, donc quelques heures à une ou deux nuits ou plus. Vous avez l'ADMR aussi, qui propose du baluchonnage, enfin du relayage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Vous avez toutes les structures d'aide à domicile. Vous en avez deux sur le secteur, là, et qui aussi sont très, proposent vraiment d'adapter le plan d'aide en fonction du diagnostic aussi du département, de la coordinatrice pour l'aide personnalisée à l'autonomie. et qui va essayer d'adapter en fonction des besoins. Vraiment là-dessus, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de vos structures et d'aide à domicile et toutes les structures d'accueil pour prendre de l'information, aussi. Bien sûr les CCAS.
Pour les portages de repas par exemple.
Il y a tout un tas de solutions dont la plateforme de répit fait partie.
Oui.
D'accord. Ce que vous me disiez un petit peu hors antenne, c'est que voilà, c'est aussi un changement sociétal où avant il y avait cette habitude en fait de au niveau des personnes âgées, en tout cas de les garder à la maison et du coup de pas forcément, j'imagine, aller chercher de l'aide à l'extérieur auprès de plateformes dédiées ou même auprès de ses amis ou ce genre de choses. Aujourd'hui, voilà, on se rend compte que les gens ont besoin de d'aide et de souffler et de prendre du temps pour ces aidants, pour elles en tout cas.
Tout à fait, la société a beaucoup évolué en 50 ou 60 ans maintenant, même plus, depuis les 30 Glorieuses on va dire, donc ça remonte, avec une évolution de l'espérance de vie qui n'est pas négligeable, hein. Nous avons gagné plus de 30 ans, mine de rien. Et aussi avec une évolution de l'espérance de vie, la présence de différents types de pathologies cardiovasculaires, hormonaux, cancers, maladies neurodégénératives, maladies neurologiques, qui surviennent à différentes étapes de la vie. Et puis aussi une société où la femme est active et ne reste plus à la maison comme précédemment. Ce qui veut dire qu'il faut articuler tous ces différents changements et les besoins qui existaient avant et auxquels la famille répondait n'est plus suffisant à l'heure actuelle. Et c'est là où, effectivement, il y a une forme de culpabilité aussi. Ma mère regardait la grand-mère, les grands-parents, etc. Oui, mais c'était autre chose. Mmh. Et c'est tout ce travail-là aussi de découdre, de détricoter toutes les représentations qui sont transmises par la société où avant on faisait autrement et maintenant on fait autrement. C'est ni mieux ni moins bien, c'est dans ce qui se présente maintenant. Et c'est aussi, ça a un fort impact aussi sur la capacité à pouvoir faire appel à de l'aide. Puisqu'effectivement, c'est normal d'être époux, épouse, enfant et de s'occuper de son proche. Sauf qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas autant de personnes qui avaient, par exemple, de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, parce que les gens ne vivaient pas aussi longtemps. C'est aussi ça.
Et puis, ce que je me dis aussi, peut-être, c'est que une personne aidante qui est bien dans sa tête et dans son corps, pour la personne aidée, c'est aussi un plus. Tout le monde est gagnant dans ce...
Tout à fait. C'est gagnant-gagnant, pour le coup.
Oui, c'est ça.
C'est gagnant-gagnant, ouais. Et effectivement, dans tous les cas, si la personne aidante n'est pas bien, l'aidée ne le sera pas. Pour de multiples raisons qui sont déjà qu'un état de santé précaire ne permet pas d'être disponible pour aider l'autre correctement. Et parce que aussi sur une population vieillissante ou avec des maladies neurodégénératives, l'aspect émotionnel est très important. Et c'est là où ça peut devenir complexe. Quelqu'un qui a fleur de peau en permanence va transmettre cette sensibilité-là. Et des troubles vont se mettre en place de façon plus importante, alors que peut-être avec un autre type d'accompagnement, avec des petites stratégies de répit, la personne, l'aidant pourrait souffler et être plus disponible pour l'aider.
Vous, Valérie Blache, en tant que psychologue, neuropsychologue, vous intervenez spécifiquement sur ces questions. Quel est votre rôle exactement dans la plateforme au-delà de c'est vraiment assurer ce suivi psychologique autour des personnes aidantes.
Alors mon rôle est vraiment orienté autour du groupe de parole, des réunions d'aide aux aidants, animer les groupes de parole sur les différents secteurs avec des thématiques de façon à apporter de l'information. Ce mois-ci par exemple, c'est communiquer avec mon proche. Donc, communiquer, qu'est-ce qu'on entend? Et faire le lien entre ce qui est de la part de l'aidant et de l'aider, voir comment est-ce qu'on peut déjà exprimer la difficulté éventuelle sur ce sujet-là et quelles sont les stratégies qui peuvent être trouvées. Donc ça, c'est vraiment lié aux groupes de parole, aux différents groupes de parole. Il y a ensuite un temps d'écoute et d'échange par téléphone, parce qu'il y a des aidants qui ne peuvent pas se déplacer sur les groupes de parole, des actifs hein, essentiellement, ou des enfants qui sont loin et qui gèrent à distance aussi des situations qui sont souvent complexes, et où il y a un temps, une demi-heure, une heure, pour reprendre ensemble les problématiques qui les préoccupent. Il y a également un temps de visite à domicile qui sont vraiment importants, et je rejoins Charlotte là-dessus. C'est vraiment la porte d'entrée pour que les familles, enfin le couple aidant-aidé, accepte de l'aide. Parce que accepter de sortir chez soi, mettre en place toute une stratégie pour aller dans un groupe de parole, ça demande du temps. Ça demande aussi dans la tête d'être disponible pour s'organiser. Et souvent, aller à domicile, ça permet quand même de dire qu'on prend du temps pour venir chez vous, vous écouter, vous accompagner. Et évaluer aussi au domicile les problématiques et se dire « Ah, là, il manque des choses. Hop, oui. Charlotte, allô ?»
Ça peut être adaptation aussi du domicile. On a des partenaires comme Solia, par exemple, qui est là pour conseiller un petit peu pour un maintien à domicile. Voilà, je ne sais pas, mettre une rampe, faire quelques travaux, adapter la douche, ce genre de choses.
D'accord. Pour rester sur la plateforme de cette plateforme de répit, donc vous êtes une toute petite équipe.
Oui.
Donc il y a vous deux, il y a également une infirmière, c'est ça?
Il y a une infirmière, une psychologue et une assistante de soins en gérontologie. Alors en fait, on se partage un petit peu toutes les quatre le secteur. C'est-à-dire moi je gère plutôt le Nyons, Tricastin, Rémusat. Nathalie, qui est l'infirmière, elle est plutôt sur Buis-Montbrun-Cédron, et Marlène, qui est la psychologue, elle est plutôt sur Diolfi, Marsanne et Montélimar. Parce que le secteur est grand quand même, hein, donc on essaie de se partager un petit peu les tâches.
Voilà. Peut-être un mot sur vos financements de
la... Alors, on est financé par l'ARS et on est porté par l'unité territoriale Lorsac à Trier, sur Nyons. Donc en fait, en gros, ils nous mettent à disposition un local. Et pas que, hein, puisque moi je suis salariée de leur sac à Trier. Au niveau du financement, c'est l'ARS, c'est un financement pour 2 ans. Donc voilà, on fera un petit bilan avec l'ARS, voir un petit peu ce qu'on a pu apporter aux aidants sur ces 2 ans.
D'accord. Donc l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour les personnes qui ne savent pas.
Et pour le groupe de parole,
c'est porté par la plateforme et financé par le CFPPA, qui est la conférence des financeurs, qui est le département.
D'accord.
Le département, les caisses de retraite.
Ah oui.
Mutuelle.
Merci Valérie.
C'est un pot commun de toutes les différentes institutions qui accompagnent les seniors, principalement, effectivement.
Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure des projets pour la plateforme de répit de nouvelles antennes. Est-ce qu'il y a d'autres projets? C'est une jeune plateforme de répit pour les personnes aidantes. L'idée, c'est aussi de vous faire connaître, j'imagine, et... En tout cas, vous avez de la place vous avez quand même du temps et de la place pour accueillir de nouvelles, pour aider de nouvelles personnes aidantes.
Oui. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à notre maximum. Après, on espère qu'on va se déployer encore en ayant, on va dire, un temps de travail plus important. Ça dépendra des financements. Hein. Et puis, on a peut-être un projet d'équipe mobile pour du répit à domicile directement, où on viendrait prendre l'idée, par exemple, à domicile, et on l'amènerait dans un lieu où on prendrait, enfin voilà, où on le prend en charge à domicile. Mais bon, il y a déjà Bulder et la DMR qui le font. Donc, on est en train de réfléchir à des solutions, vraiment sur les besoins réels des aidants, quoi. Voilà, donc on va évoluer, mais pour l'instant... C'est à l'état de projet.
Se développer, c'est pour répondre aux besoins des aidés et des aidants, surtout. Donc, ça veut dire que c'est avec le matériel qu'ils nous apportent que nous allons pouvoir voir comment les choses peuvent évoluer, en sachant qu'il existe énormément de choses malgré tout. Ça, c'est important. Jamais assez, ça, c'est sûr aussi. Pour répondre au mieux aux besoins de chaque territoire qui est différent. En ville, on n'a pas les mêmes besoins qu'en milieu rural. Mais c'est effectivement à travers tout ce qui peut être recueilli comme information et toutes les problématiques que l'on va pouvoir déployer, réfléchir et puis voir comment déployer des fonds.
En fait, Une de nos missions aussi, c'est de recueillir tout ce qui existe sur le territoire, une sorte de cartographie de tout ce qui est existant, toutes les actions. Et après, justement, de proposer une sorte de catalogue un petit peu aux aidants selon leurs besoins. Donc ça, c'est un gros travail aussi avec les partenaires. Donc moi, je me balade pas mal sur tout le territoire à la rencontre de tous les acteurs sociaux, médico-sociaux sur la Drôme.
Peut-être pour terminer, vous avez déjà répondu beaucoup sur ces questions, mais quel conseil vous donneriez aux personnes aidantes qui nous écoutent, peut-être vous contacter ou agir avant cet épuisement dont vous parliez physique et psychologique, tout simplement.
Eh bien, appelez-nous. Voilà.
C'est se dire que ce n'est pas parce que c'est mon époux, mon épouse, c'est mon parent, que je ne peux pas être fatiguée, que je n'ai pas des questions. C'est justement là, quand il y a ces questions-là, quand je me sens en tension avec moi-même, que je me dis quelque chose qui n'est pas juste et je sens que là, à l'intérieur de moi, ça s'accroche, ça peut faire mal. C'est là où c'est important de s'adresser s'il y a des infirmières, des aides à domicile qui interviennent, de leur dire « Je pense que j'ai besoin d'aide, est-ce que vous connaissez quelqu'un ?» Et puis effectivement, de savoir qu'il y a la plateforme qui existe, surtout pas hésiter à la contacter, comme les lieux, ressources qui existent, surtout le territoire et sur du Lefi pour le coup.
Ben merci beaucoup Valérie Blache et Charlotte Ottaviani.
Merci à vous.
Merci.
Vous l'avez dit, mais pour en savoir plus sur cette plateforme de répit, rendez-vous sur... Vous avez donné le numéro tout à l'heure, mais on peut éventuellement le redonner.
Alors donc vous pouvez nous contacter au 04 75 26 94 33 ou par mail à plateforme de répit, tout attaché en minuscule, @orsac-6atrir.fr. Et puis, on a également une page Facebook, vous tapez « Plateforme de répit escapade », vous nous trouvez, et une page LinkedIn aussi, c'est pareil.
Voilà. Et à Dieulefi spécifiquement, les groupes de parole sont animés les deuxièmes vendredis du mois, le matin.
Le deuxième vendredi du mois, c'est le point information.
Alors oui, voilà, nous, la plateforme, on accueille le lieu ressources, c'est le deuxième vendredi du mois, donc une fois par mois, de 10h à midi, au centre technique départemental, rue de la distillerie.
Et les groupes de parole ont lieu le quatrième lundi du mois.
Très bien.
Exception faite le mois d'août.
Pareil pour la plateforme, ça sera exception faite au mois d'août, mais je ferai une information sur Facebook et LinkedIn.
Très bien, merci encore d'être venu dans les studios de Radio-là pour nous parler de cette plateforme. La belle saison, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cette émission vous a intéressé, vous pouvez la réécouter sur le site www.radiola.media. Très belle journée à l'écoute de Radio-là.
106.6 à Dieulefi, c'est Radio-là.
Radio-là.